Eva, elle a une spirale tatouée sur le doigt. Il y a un tuyau qui fait couler de l'eau. Il y a deux fois où Eva m'a emmenée me promener. Elle me sondait, quoi. C'était pas très loin de là où elle a son studio. Et on a marché derrière vers un autre terrain vague et elle m'a montré un tunnel où elle avait déjà fait une rave. Et on n'a pas descendu parce que on n'est pas descendu dans le tunnel parce que ce jour-là il avait plu beaucoup.
Mais est-ce que l'échelle c'est le truc où on voit la lumière au bout?
Ouais.
Ah oui, et c'est genre comme une plaque d'égout quoi.
Ouais.
Ah ouais, le délire.
Ouais. Puis ça c'est des gens qui voulaient.
On s'est juste agrippé à la grille et on a tendu nos têtes à l'intérieur pour parler et tester l'écho. Et Eva elle s'est mise à chanter et après elle m'a raconté des choses sur l'endroit et il y avait juste la lumière qui arrivait de loin qui nous éclairait quand on marchait. Au sol il y avait un mélange de petites roches, de tas de choses qui ont été empilées ici et de petits paquets de nature qui avaient repoussé par endroits. Allô, baby. Allô.
Bonjour.
Ça va?
Ouais. Il pleut, c'est intense.
Il pleut, t'as dit?
Ouais, vraiment beaucoup, en fait. Mais c'est pour ça que c'est comme une bonne question, la question de quelle météo il fait à Montréal. C'est un peu apocalyptique, honnêtement.
Bah oui, bah du coup, je voulais te demander quel temps il fait à Montréal. Tu m'as déjà dit.
Ouais, c'est ça, c'est l'apocalypse. Mais c'est pas vraiment un été très estival, je trouve, honnêtement. Comme tous les deux jours, on a vraiment des déluges. Ouais.
Ici, il a pas du tout... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait chaud. En tout cas, aujourd'hui, il fait chaud.
Mais il y a des sécheresses aussi en France. Je récupérerai de l'eau, puis je vous l'envoie à travers l'océan.
Il y a Guillaume et Léo, je sais pas si tu les entends, mais eux, ils t'entendent un peu.
Salut, coucou.
Allô, bonjour.
On a fait un setup sur un... On est dans la radio. Du coup, on est dans un méga plateau de radio avec les téléphones.
Ah ouais.
Toi, t'es chez toi?
Je suis chez moi, je suis comme posée. À la base, je voulais comme squatter la maison de ma maman parce qu'elle, c'est très très calme et c'est une maison d'adultes, donc c'est cool pour... Je sais pas, pour mon équilibre mental, mais finalement...
Et je me disais que si tu veux, on pouvait commencer. Tu voudrais lire son texte au début.
Comme ça, j'échauffe mes petites cordes vocales toutes abîmées par ma maladie. Oui.
Mais t'es malade parce que à cause de la météo.
Parce qu'il à cause froid. De la pluie. Il fait super chaud. C'est terrible. Non, mais la météo, c'est vraiment terrible. Il fait super chaud et il pleut des cordes. Puis du coup, le jour, en fait, c'est comme je me lève et c'est comme grand soleil. 35 degrés, j'avais pris un parapluie, heureusement. Genre, on était deux sous le parapluie et je te jure, je suis rentrée, j'étais trempée. C'est comme, tu sais, c'est pas des petites pluies là, c'est comme, t'as genre des rivières dans les rues. Genre.
Mais comme la fois où je suis venue voir l'atelier où tu bosses, et bah il pleuvait beaucoup, je me souviens.
Ouais, 100%.
Mais et c'est pour ça qu'on n'est pas allé dans le tunnel plein de fois, c'est parce qu'il pleuvait.
C'est vrai, c'est ça. Mais cet été-là, il est particulier, comme autant de pluie que de soleil. Le progrès, c'est rajouter des mâts à un trois-mâts,
des roues
à un tricycle,
et se dire plein de roues maintenant.
J'ai plein de roues maintenant.
Du vernis, un moteur électrique.
Du vernis sur ma moto à un moteur électrique. Je me suis inscrite dans la grande trajectoire historique de l'humanité. J'ai pris le contrôle de mon évolution. J'ai brillamment illustré le darwinisme social. J'ai dépassé les primats biologiques pour m'inscrire dans le glorieux devenir transcendantal, la destinée manifeste de mon espèce. Et puis deux jours plus tard, se dire que finalement, on aurait juste dû acheter une voiture. C'est peut-être pour ça qu'on aime tant les nouvelles générations d'iPhone et célébrer la nouvelle année. Les chiffres augmentent, donc tout va bien. Les choses avancent. Le temps et l'histoire ne sont pas encore complètement dispersés dans la brise. Au milieu des injonctions perpétuelles ou toujours plus fort, plus haut, plus gros, je ne sais plus trop où parler, comment exister, quoi faire. Toutes les fibres de mon être sont filées de détermination vaste et dense. Je les brûlerais toutes entières si seulement j'avais assez de flamme en moi. L'écriture contemplative et vide ne me va plus. Nos mots devraient être donnés à voir et à penser, au lieu de prendre au monde ce qu'il a de vivant pour le cristalliser dans des phrases stériles. Mon ambition, c'est d'extraire les mots de leur mouroir de papier, ne lire la liberté que dans leurs interlignes. Donc, faire confiance à Paul Éluard et l'écrire partout, barioler les rues d'encre. Liberté, 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 liberté. Et espérer que la langue a réellement un pouvoir pragmatique. Moi, je ne veux rien communiquer. Je ne veux rien exprimer. Je ne veux jamais prétendre que je dis la vérité. Par contre, je peux établir des liens. Je peux voir les connexions, travailler ma perception. Osciller entre toutes les certitudes qu'on me propose et faire la synthèse. Je me fais funambule sur tous les fils tendus. J'avance comme une musicienne joue de son instrument, à l'ouïe, au senti. Il y a dans le corps une capacité à trouver l'équilibre et l'harmonie. Il faut croire à ça, étendre l'oreille, prêter attention, rester sensible à ce qui vient altérer la balance. Donc, ne rien prétendre savoir d'avance. Tout redéfinir à chaque pas dans les entrelacs d'un monde en perpétuelle mutation. Je n'explique pas ce que je sais, je suggère les lignes de certains chemins. Nous avons trop perdu de temps en nous laissant convaincre que tout était perdu. Il nous faudra une certaine sensibilité pour déblayer le superflu, savoir retrouver le monde par-dessous les couches de plastique et d'asphalte. Mais il y aura toujours des interstices, des failles, des fentes, des entrebâillements dans les portes qu'on croyait fermées. On pourra toujours aiguiser nos regards, traquer les interstices, tendre l'oreille, reconnaître que nos alentours sont infiniment plus complexes que ce que l'on voudrait nous faire croire. Je me tiens debout. Je me place. Je me situe. Je sonde mes alentours. Je ressens ce qui m'environne. Je me positionne. Je sais d'où je viens. Je viens d'un jardin, allongé sous le zénith occitan. Entre la chaleur éclatante du soleil et l'air frais des mares, je trouvais toujours une chose cachée derrière d'autres, un autre sens, une histoire à découvrir, des enclaves de mystère. Et puis sinon, je l'ai créé pour moi-même. Il y avait par exemple un talus, au point d'inflexion juste avant que le jardin ne devienne une friche vallonnée, sur lequel j'avais érigé un autel aux divinités du vent, peu importe lesquelles. Je n'avais pas besoin de les nommer ou de déclarer mon appartenance à une quelconque mythologie. Je voulais simplement entendre leur voix à travers les rubans accrochés sur une petite structure de bois, à travers les cloches colorées et un carillon. À l'époque, j'avais entrepris de collectionner des livres sur la nature qui tenaient lieu pour moi de grimoire. L'un d'entre eux était explicitement un recueil d'astuces traditionnelles de sorcières. J'avais appris quelques vertus végétales, comme par exemple une petite plante qui pousse parmi les herbes, le plantain, qu'on peut repérer aux veines de ses feuilles. Au lieu d'en avoir une centrale dont les autres jaillissent en arborescence, les feuilles du plantain ont 5 ou 6 veines à peu près parallèles les unes aux autres. En les roulant en boule et en les frottant contre la peau, elles soulagent ces irritations, ce qui en faisait un excellent remède contre les piqûres d'ortie que je collectionnais à force de rouler dans les fossés. Chaque événement est encore si vivide dans mes souvenirs que je pourrais tous les replacer. La chatte sauvage qui était venue accoucher dans le foyer de notre cheminée. Le crapaud retrouvé bloqué dans le ruisseau qui plongeait dans une de nos mares. Les pousses de chêne plantées par mon père avec l'idée que dans des décennies ou dans des siècles, ils émergeraient du sol en forêt. J'y repense, et là je sais. Je sens ce que c'est connaître de l'intérieur. J'ai encore l'ombre des tilleuls imprégnés dans ma peau. Je sais que mes mots sont empruntés au poète cathare dont je sentais l'esprit sur les pierres blanches. Je ne vivais pas dans ces champs. C'est encore eux qui m'habitent. Pourquoi nous faudrait-il des leçons pour concevoir que le monde est en perpétuelle redéfinition au gré de liens, de flux, d'attaches? Il suffit d'observer les fourmis protéger les pucerons au creux des champs de luzerne, en échange d'un peu de miel. Je le concède, cela demande quelques conditions préalables. Entre autres, avoir accès à un champ et à une paire d'yeux fonctionnels. Mais la campagne n'a pas le monopole des rencontres fortuites. La pluie, déjà, se fait pont entre les rives des nuages et l'ancrage du béton. Rencontre. À la dérive dans les rues, un enfant sourit en regardant un arbre pousser. Rencontre. Un vieillard marche dans le silence des journées solitaires avec l'espoir d'une histoire au coin des lèvres, prête à fuser. Une oreille tendue, Une oreille curieuse lui est tendue au détour d'un trottoir. Rencontre, rencontre, rencontre. Chacune noue une nouvelle maille, l'existence s'étoffe et se tisse le long de croisements imprévus. Mais je sais. Je sais, je sais. Je sais, je n'ai comme défense que des idées d'enfant, vides de la vie que d'autres auront sûrement mieux vécue. Je sais, mes pensées sont incomplètes et pas toujours les plus rationnellement formulées. Je sais. Je sais, le monde s'effondre. Le monde s'effondre et aucun atlas n'aura les bras assez larges pour pouvoir emporter tous les fragments. Je sais, je titube, j'hésite, je tâtonne. Je n'ai pas les réponses, mais personne ne les a. En revanche, je sais reconnaître le trouble quand il se fait sentir. Et puis j'apprends à coudre, broder, tisser, filer, lier, tricoter, rapiécer, repriser, tout ce qui ressemble à la possibilité de créer quelque chose depuis les entre-deux. Le monde ne s'arrête jamais d'être en création. Donc, le monde est une création, donc le monde est un poème. Pas métaphoriquement. Le monde est étymologiquement un poème, donc le monde est un perpétuel poème. C'est ça. Nous nous tenons sur la crête d'un poème maillant nos corps morcelés aux quatre vents. Quelques songes à bercer dans le linceul du ciel. Entre chienne et louve, je suis là. Je suis là, nous sommes là. Les deux pieds plantés dans la matière mouvante de nos espérances. Ça faisait longtemps que... Ouais, la dernière fois que je l'avais lu, c'était à toi, Zoé.
Il y avait beaucoup de vent. Mais du coup, c'est bizarre parce qu'il y a quand même un grand moment où tu parles d'être sur la crête et de sentir le vent. Donc en fait, ça va.
Bah oui, c'est ça. C'est comme un dialogue avec les éléments, c'est parfait.
Bah merci beaucoup. J'aime vraiment bien ce passage. Je pense que c'est mon passage préféré. Et qui... c'est pour ça aussi que je t'ai proposé de le lire. C'est le moment où tu racontes et où tu disais que tu t'étais inspirée de là où tu avais grandi. Et avec le chant, le crapaud. Et que c'est des éléments qu'on pourrait vraiment tous regarder, mais que tu dis que tu vois un autre sens derrière.
Oui, mais c'était... En fait, tout ce bout-là, ça m'est vraiment venu d'un théoricien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tim Ingold, et qui parle de connaître de l'intérieur. Puis c'est un truc que je dis à un moment dans le texte. Parce qu'il explique, en fait, quand tu apprends à connaître un espace, quand tu apprends à connaître un lieu, c'est toujours un rapport qui est personnel. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir de rapport scientifique ou comme analytique à un espace. Tu es obligé d'aller voir pour toi-même, en fait. Il donne l'exemple de comme son père qui était biologiste et qui lui montre les champignons. Mais en fait, tout ce qu'il fait, c'est lui montrer la direction pour qu'il aille voir le champignon par lui-même. Et puis après, lui, il connaît de l'intérieur.
J'ai un peu expliqué à Guillaume et Léo que tu travaillais pour un projet. Et en gros, moi, quand j'étais allée te voir, je me souviens que donc, c'était dans un atelier. Et il y avait... Et il y avait un peu la serre où vous essayez de faire pousser des choses. Et il y avait la personne avec qui tu travaillais aussi.
Ouais. Donc le nom de notre collectif, c'est Critical Gardening Collective, en anglais parce qu'on est en Amérique du Nord. Mais le nom du projet en lui-même, c'est Vers une quatrième nature. Donc l'idée, c'est de en fait, créer une forme de vie symbiotique entre la technologie des mousses et des sculptures de céramique. Donc l'idée, c'est qu'en fait, il y a un certain type de mousse dans le monde qu'on appelle les mousses bipolaires parce qu'elles poussent seulement au pôle Nord et au pôle Sud. Donc elles ont une dispersion disjointe, comme on dit. Ce qui fait qu'on les appelle souvent des canaries dans la mine du réchauffement climatique. Comme elles sont au pôle Nord et au pôle Sud, qui sont les deux régions les plus affectées par les dérèglements climatiques, on ne sait pas exactement en fait, comment est-ce qu'elles vont réagir, est-ce qu'elles vont survivre, est-ce qu'elles vont s'adapter, ou est-ce qu'on veut juste disparaître. Donc nous, on va les faire comme des sortes de captations de données en Finlande et en Patagonie. Je dis nous, moi je ne sais pas si je vais y aller, j'espère, mais en tout cas pour l'instant c'est comme... Le collectif qui va
vous
y aller.
Vous êtes combien dans le projet ?
7 dans moi. Et c'est ça. Puis donc, on va aller capter des données sur les conditions de vie de ces mousses-là et on va essayer de les reproduire à Montréal. Donc, ça va être des choses comme la température du sol, la température ambiante, le type de sol, la pollution, les plantes avec lesquelles elles vivent en symbiose, les mousses. Et on va essayer de tout reproduire ça à Montréal avec l'aide de la technologie, ce qui en fait donc une sorte de projet un peu cyborg, un peu hybride.
Et pour le moment, vous en êtes où dans le projet ? C'est un projet qui a une longue échelle, non, si je me souviens ?
Ouais, c'est ça. Ça va durer 4 ans. Comme... Là, pour l'instant, on est encore à la phase prototype, 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 prototype. Genre...
Ouais.
On n'est même pas encore sûr de comme c'est quoi nos sources d'énergie, par exemple. Mais le projet lui-même est beaucoup plus axé sur le processus de création que le résultat fini. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avoir une œuvre finie, en fait. C'est quoi l'esthétique qu'on veut ? C'est quoi les questions de recherche qu'on se pose ? C'est quoi les méthodes qu'on va utiliser pour la collecte de données et tout ça. Enfin, c'est vraiment...
Et toi, dans le projet, c'est quoi ta place ? Tu disais que
que tu avais lu beaucoup d'articles et que tu essayais de regrouper un peu des gens à interviewer et tout, c'est ça?
Ouais, exact. Genre moi, je fais plus le travail comme bibliographique, en gros, autour du projet. Parce que moi, j'ai vraiment comme... C'est un bagage super académico-académique, là. Donc, je suis bonne en bibliographie, en littérature scientifique et tout ça. Ouais. Donc, c'est comme, en gros, je prends plein de scientifiques qui travaillent sur les mousses, sur les bryophytes, puis je fais des sortes de synthèses de c'est quoi leur travail. Puis après, j'essaie de préparer des questions qu'on veut leur poser pour qu'ils essayent de... Parce que nous, on est comme une équipe qui est très multidisciplinaire, on n'a pas vraiment d'expertise. Donc, on doit mobiliser des experts pour apporter des réponses à nos questions.
Ce que je me demandais, c'était, du coup, tu vas prélever des mousses en Patagonie, en Finlande, c'est ça? Et ouais. Après, les replacer à Montréal. Et est-ce que tu penses pas que ça va les déboussoler un peu?
Tu sais, déjà, elles poussent au pôle Nord et au pôle Sud. C'est comme un phénomène vraiment particulier, parce que c'est une dispersion disjointe, tu vois. Il y a comme pas beaucoup d'espèces qui ont ce type de dispersion dans le monde. Donc, en fait, elles ont des capacités d'adaptation qui sont très, très fortes. C'est ça qu'on suspecte.
Ok.
Comme elles ont été capables, en fait, de essentiellement traverser le globe et trouver des façons de vivre. Les mousses, c'est quand même impressionnant comme forme de vie. T'sais. On a espoir qu'elles sont capables de se faire une petite maison à Montréal.
Et c'est quoi ce qui t'a amené à passer de la bibliographie scientifique et vraiment être dans la documentation à, du coup, tu vois, de vouloir communiquer avec les principales concernées, les mousses?
Ouais. Bah, tu sais, je vais vraiment parler à un niveau comme très personnel, mais comme... J'étais en train de faire ce travail bibliographique. Et autant c'était fun parce que le projet me parle énormément, autant je me sentais un peu... Enfin, je trouvais ça très, très, très redondant. Et je réfléchissais beaucoup à comme l'idée de point de vue situé de Narraway ou comme des épistémologies féministes qui est que, dépendamment de ta position dans la société, tu vas avoir un point de vue différent sur la société. Et je lisais pas mal de textes là-dessus en parallèle de mon travail de bibliographie sur les mousses. Et je sais pas, comme en travaillant dessus, c'est juste... Mais en fait, comme on peut pas avoir un projet qui est vraiment... entre guillemets, inclusif, si on n'interviewe pas les mousses en elles-mêmes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement toute une sorte de mouvance qui essaye de désanthropocentrer la production de connaissances. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour vraiment... Enfin, c'est-à-dire de réaliser que la science est oppressive. La science occidentale s'est fondée sur l'idée de détruire et de contrôler la nature. Donc il y a de plus en plus de chercheurs qui essayent de se dire comme il faut qu'on ait une science qui puisse aider la nature, qui puisse l'inclure dans sa façon d'être. Pour être plus saine. Donc je me suis dit, ça paraissait juste logique en fait d'interviewer les mousses, quoi. C'était vraiment important pour moi que ça soit comme pas une métaphore. Il y a énormément en fait de travaux qui sont faits pour justement comme penser comme la montagne ou penser comme les poulpes ou je sais pas. Et c'est génial, moi j'adore ça. Puis je trouve que les métaphores c'est super important, c'est super puissant. Mais je voulais en fait essayer de trouver si c'était pas possible en fait d'avoir une forme de dialogue avec les plantes, avec les mousses spécifiquement. C'est un peu ça mon... Puis, j'adore la figure des mousses parce qu'elle change beaucoup d'autres icônes de l'écologie. C'est-à-dire que quand on pense... Et j'aime bien vraiment l'idée de comme, aller vers le tout petit, puis comme, genre, me coller au sol, puis vraiment essayer d'écouter ce qu'elles ont. Ça change un peu l'échelle de l'écoute écologique, je trouve. Donc il y a un biologiste qui s'appelle Von Oexkul, je pense. Il s'appelle Von Oexkul, mais juste, je ne sais pas du tout comment prononcer son nom. Il a théorisé la notion de Umwelt. Donc, en fait, il cherchait à se questionner sur qu'est-ce que c'est l'environnement et surtout qu'est-ce que c'est l'environnement pour un non-humain, pour un autre qu'humain. Puis, lui, il était comme pas mal focus sur les animaux. Puis, il expliquait qu'en fait, l'environnement pour un animal est déterminé par son appareil sensoriel. Donc, il prend souvent l'exemple d'une tique. Une tique, ça a trois stimuli. C'est comme le sexe, la chaleur et la nourriture. Et c'est vraiment les trois seules façons qu'il a d'appréhender le monde. Donc, son monde entier va être caractérisé par juste les trois stimuli qu'il peut avoir. Donc, en fait, on partage un même espace géographique, mais toutes les espèces qu'il y a dedans ont un umwelt différent. Donc, c'est comme s'il y avait plein d'umwelt qui se superposaient dans un même espace. Umwelt étant donc le monde perçu. Et donc, il y a comme ce truc, en fait, quand tu essaies d'interviewer une autre espèce, comme vraiment un autre mode de vie, qui est qu'on a juste un umwelt complètement différent. Et que je peux même pas vraiment, en fait, essayer de me projeter dans qu'est-ce que c'est le umwelt pour cette autre forme de vie, parce que j'ai pas le même appareil sensoriel. Difficile. Mais je pense que ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre qu'on conçoit la communication d'une certaine façon comme dépendante du langage, mais que c'est peut-être possible en fait, d'envisager une autre forme de communication. Donc le truc, c'est qu'on va avoir besoin de faire de la traduction, en fait. On ne pourra pas avoir comme une sorte de dialogue direct. On va avoir besoin de comme l'intermédiaire des machines pour faire de la traduction. Ben, c'est ça, de quoi est-ce que les mousses, elles ont besoin? qu'est-ce qui les stimule. Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est la température? Est-ce que c'est l'humidité? Puis d'essayer d'interpréter ça d'une façon qui est intelligible pour nous, les humains. C'est pas un dialogue, quoi, direct. Comment dire, c'est un peu décevant, mais en fait, justement, j'essaie de comme, me dire que c'est pas décevant, puis ça me force à sortir de justement ma compréhension de qu'est-ce que c'est qu'un échange fructueux. C'est-à-dire que justement, on est tellement, on s'attend tellement à avoir comme des réponses fixes, de dire comme oh, genre, Mousse, enseignez-nous votre savoir primordial, mais c'est comme ça encore, c'est anthropocentré en fait, parce que c'est une certaine vision de c'est quoi la connaissance, c'est une certaine vision de c'est quoi la communication, le langage.
Et est-ce que.
C'est un peu là où on en est.
Oui, mais il y a aussi du coup le fait que ça, c'est dans un cadre de recherche où. Parce que j'ai l'impression que tu me disais que. Mais peut-être je me trompe. Que les mousses, vous vous y intéressiez aussi parce qu'elles elles pouvaient vous. Il y avait cette idée de bio-indicateur et, mm-hmm. et que c'était, ça pouvait être des indications par rapport au changement climatique.
Ouais, 100%. Il y a comme beaucoup de chercheurs qui les utilisent pour monitorer en fait beaucoup le dérèglement climatique. Donc c'est mettons leur avantage principal, il y en a beaucoup, mais c'est vraiment de comprendre la pollution de l'air en fait. C'est-à-dire qu'elles vont réagir de façon complètement différente dépendamment de comment l'air est pollué. Mais en fait, pendant longtemps, on pensait que les mousses étaient complètement inutiles comme forme de vie dans la biologie. Et c'est vraiment juste récemment qu'on a commencé à comprendre qu'elles sont... En fait, elles ont vraiment une fonction régulatrice dans les écosystèmes. Comme elles sont au cœur vraiment de plein de dynamiques écosystémiques. Elles vont fixer l'azote qui sort du sol beaucoup. Donc ça permet de comme, évaluer la qualité des sols aussi. Elles vont aider d'autres plantes à vivre. Comme il y a beaucoup d'articles scientifiques qui parlent des bryophytes comme des nurse plants, donc qui vont comme accompagner en fait la vie et la croissance d'autres plantes. Elles peuvent aider certains animaux aussi à mieux métaboliser leur nourriture. Enfin, c'est vraiment des régulatrices en fait. Elles sont tellement au croisement de plein de formes de vie qu'on peut vraiment les analyser pour ça, comprendre leur milieu de vie en fait. T'as comme un projet au Canada de bryo monitoring du coup, et en fait ça prend des sortes de d'échantillons de mousse à travers plein de régions du Canada, puis ça les analyse pour essayer de comprendre c'est quoi la qualité de l'air. Donc au lieu d'avoir comme des sortes de capteurs qui sont purement technologiques, on va essayer d'utiliser l'intermédiaire des mousses en fait. Comme ce qui est intéressant avec le fait de les utiliser comme bio-indicateurs, c'est que ça permet vraiment de penser de façon relationnelle.
Mais c'est marrant parce que tu vois, tu parles des mousses comme bio-indicateurs et il y a aussi à l'heure actuelle d'utiliser l'humain de plus en plus, enfin l'humain est de plus en plus météo-sensible aussi, c'est-à-dire avec les formes d'éco-anxiété, toutes les choses comme ça. Il y a aussi l'humain qui commence à capter l'importance de la météo et du climat et de son environnement. Et en fait, du coup, ça rappelle aussi cette idée de faire un tout, qu'il n'y a pas que tel élément, enfin aussi déplacer le regard vers d'autres espèces, quoi.
Ouais, je suis tellement d'accord. Comme j'aime trop aussi l'idée que justement, moi c'est toujours Donna Haraway à laquelle je reviens beaucoup. Puis elle explique que le corps en lui-même est un lieu d'analyse. Que c'est le corps est façonné par tellement de dynamiques sociétales que si t'arrives à juste écouter c'est quoi t'as ressenti, tu peux apprendre énormément sur le monde. Et je suis vraiment d'accord avec des trucs comme l'éco-anxiété. En fait, ça nous traverse d'une façon tellement forte.
Et finalement, de parler de météo avec des mousses, ça permet aussi de parler le même langage, quoi. On parle de la même chose. Ta mousse, elle te parle de météo et toi, tu veux lui parler de météo.
Je me disais que je voulais aussi parler avec toi du fait que je sais que toi, t'es intéressé par trouver un peu tes propres modèles de prédiction, parce que je pense qu'un des aspects qui nous intéresse dans s'intéresser à la météo, c'est parce que ça te permet de prévoir ce qui va se passer demain et de prévoir le futur, entre grands guillemets. Ouais. Et je sais que toi, tu m'avais tiré les cartes, que t'as appris à tirer les cartes de tarot.
Qui est très forte, genre. Mais surtout une envie, en fait, de comprendre. Je pense que c'est ça la racine de cette carte. Donc ça, comme thème central, ça indique juste comme ton envie.
C'est des modèles de prédiction, c'est ça. Genre. Parce que de toute façon, tu peux jamais prévoir le futur, c'est toujours des modélisations. Enfin, ça, c'est peut-être le côté en moi très scientifique, mais c'est toujours des probabilités que quelque chose se passe. Genre, tu peux jamais dire comme, oh, c'est sûr que demain le soleil se lève. C'est juste qu'il y a comme 99,9999% de chances que le soleil se lèvera demain. Mais c'est pas 100% sûr, genre. Donc c'est comme toujours des modèles qu'on utilise pour prévoir le futur. Ouais, mais moi, j'ai vraiment comme un rapport super bizarre au futur, je pense. J'ai vraiment, vraiment du mal à me projeter, je pense. Par rapport aux crises écologiques, c'est un peu ça que je te disais, Zoé, je pense, mais c'est qu'on n'arrive juste pas, en fait, à comme... Je pense vraiment que notre imagination est corrompue. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se projeter dans le futur. Et moi, je sais que, par exemple, pour moi, dans 200, 300 ans, on n'existera plus. Je sais pas, le tarot, je pense que ça me donne espoir plus qu'autre chose. C'est un niveau comme très, très personnel ou très interpersonnel, mais c'est comme... Généralement, ça va plus me concentrer sur le présent, puis après, ça va me donner comme des sortes de petits conseils ou des sortes de trucs à surveiller pour le futur.
Oui, c'est plutôt une réponse à ce qui est déjà en train de se passer, une façon de le voir autrement. En fait, l'orage, il est déjà là, c'est juste que du coup, la fleur, elle va se baisser, mais en fait, elle va pas se baisser avant que l'orage arrive, quoi. C'est un peu...
Ouais.
Tu vois, c'est un peu qu'est-ce qui arrive en premier, mais c'est vraiment une réaction et c'est plutôt apprendre à lire. C'est comme les pommes de pin qui se ferment avec l'humidité. En fait, l'humidité, elle est déjà en train de changer. La pomme de pin, elle s'ouvre ou elle se ferme. Mais...
Tu sais, les plantes, elles font que réagir à des stimulations, mais elles réagissent à des stimulations parce qu'elles sont tellement, tellement interconnectées. C'est... Et comme nous, on est obligés de passer par l'intermédiaire de technologie pour être capable de lire la météo au haut, puis elles, c'est comme leur corps qui leur indique qu'est-ce qui va se passer. Il y a un côté tellement... tellement sensible à ça, que je trouve personnellement magnifique. J'aimais trop la question que tu soulevais de comme qu'est-ce que les mousses pourraient chanter comme chanson. Je trouvais ça trop beau comme idée, parce que il y a le truc aussi comme les mousses, c'est la première lignée de plantes terrestres. Donc quand elles sont sorties de l'eau, c'est elles les premières formes de plantes qui vivaient sur Terre. C'est des vieilles, elles sont vieilles les mousses, genre vieilles. Et c'est aussi comme des plantes non vasculaires, donc qui n'ont pas de sang, qui n'ont pas d'artères, rien. Et donc elles vivent de façon comme très 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 lente. Donc c'est une temporalité qui est complètement différente. Et moi j'aime trop imaginer qu'en fait genre depuis qu'elles sont sorties de l'eau, elles commencent à chanter une chanson, mais tu sais sur des millions et des millions et des millions d'années. Nous on est juste tellement rapide qu'on peut juste pas l'entendre. Donc ça se trouve si on arrive à comme vraiment 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 ralentir, on pourrait peut-être entendre genre une note de ce que les mousses chantent.
Oui, une note, ce serait l'échelle de toute notre vie, quoi.
Et encore, faudrait vraiment être capable de prêter attention pendant assez longtemps pour pouvoir la discerner, tu sais. Donc ça, ce serait les chansons très, 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 très lentes des mousses.
Mais on s'était dit qu'on voulait essayer de faire une chorale de fleurs. Et on a l'enregistrement de toi qui chante dans le tunnel. On pensait peut-être l'utiliser un peu pour faire une chorale de fleurs.
Ouais, c'est genre une sorte de comptine anglaise, je pense.
Oui.
Scarborough Fair. C'est comme une chanson de... Bah, c'est une comptine à la base, puis ça a été repris par Simon et Garfunkel, genre. Ouais, puis en plus, à un moment, c'est comme ça dit... les paroles, c'est quoi? C'est « Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. »
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true lover.
Et puis merci beaucoup 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 Eva.
Ouais, merci.
De t'être réveillée si tôt pour 10h30 du matin.
C'est pas super.
16h30 ouais. Pour nous. Et bah on va le diffuser à 19h pour nous, donc 19-6.
13.
13h pour toi.
Excellent. J'ai tellement hâte d'écouter, déjà ça, mais comme même toutes les autres émissions et tout, je commence à regarder votre.
Et bien, c'est tous les jours à 19h, jusqu'à lundi prochain.
Bien placé.
Ouais.
Oui.
Bisous, bisous.
Bisous tout le monde. Bonne journée.
Je ne crois pas au soleil. +28 degrés pour un temps généralement nuageux. La lisière devient blanc. La pluie est attendue dans 2 heures. Faut-il s'attendre à de la pluie demain? Rien à signaler. 30 degrés en moyenne. Les fleurs seront ouvertes.